Premier cas, le cas d'un serviteur de Dieu. J'ai nommé mon frère bien-aimé Jack. Jack, peux-tu te lever, s'il te plaît? OK. Merci, Jack. Jack est sauvé depuis bien des années, missionnaire, à l'œuvre dans le Seigneur. Pourtant, pendant de nombreuses années, Jack a eu des symptômes assez bizarres pour un chrétien. Des accès de colère, des gestes compulsifs, style se cogner la tête dans les murs, se donner des coups de poing, des paroles blasphématoires. Et ça sortait comme ça. Et c'était le premier à en être attristé, et pas comprendre pourquoi ça arrivait. Il est allé voir le pasteur McLeod, dans l'Ouest canadien, et lui a diagnostiqué que Jack était démonisé, et que c'était de source occulte. Le remède, ça a été ce que certains peuvent appeler une cure d'âme, c'est une terminologie plutôt non-pentecôtiste, ou délivrance, terminologie plutôt pentecôtiste, peu importe, un travail de chrétien pour en aider d'autres, selon les Écritures. Et Jack a été délivré. Si vous voulez en savoir plus, j'invite à lire son témoignage. Il en a apporté quelques copies. Et ça peut encourager des personnes parmi nous. Deuxième cas, une nouvelle convertie. J'ai nommé Mireille. Merci Mireille. Je la vois pas. Merci Mireille. Donc, Mireille, ça fait à peu près un an que tu es sauvée, c'est ça? OK. Mireille était comme moi, elle avait un arrière-plan d'occultisme, mais elle pratiquait ce qu'on appelle l'écriture automatique. Sans aller dans les détails, là, c'est que tu, sous l'inspiration d'eux, tu écris des choses, après ça, tu lis ça, puis wow! Et elle avait des cahiers de notes personnelles auxquelles elle était attachée. Elle avait investi tout le temps là-dedans. Quand elle a lu ce livre-là, Le Libérateur de Neil Anderson, elle a compris que c'était en abomination à l'Éternel. Elle a fait le ménage, se débarrasser de ça. Elle voulait être entièrement à l'Éternel, son Dieu. Et c'est comme on voit dans les Actes. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Apparemment, c'est une très grosse somme d'argent. On a brûlé devant tout le monde. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Un témoignage d'amour pour Dieu. Un témoignage de conversion. Troisième cas, un père de famille. J'ai nommé mon frère Stéphane. Merci Stéphane d'avoir accepté, toi aussi, d'être mon cobaye. Stéphane a loué un film, comme on fait parfois, pour écouter en famille, au grand désespoir de son épouse. Parce que c'était un film fantastique. Et puis, vous savez, par expérience, fantastique, c'est pas loin de l'horreur. Hein? C'est rare d'avoir du fantastique sans avoir de l'horreur. Fait qu'après le visionnement du vidéo, il y a eu des manifestations surnaturelles autour de lui. Apparemment, c'était pas très drôle. Heureusement, ça lui a permis de faire le lien. Il l'a eu le même soir. Ça lui a permis de faire le lien avec les vidéos qu'il venait de voir. Il s'est repenti devant le Seigneur. Les manifestations ont cessé. Le Seigneur est bon. Hein? Quand on obéit, là, quand on se repent, on confesse, il agit. Pourtant, ce n'était qu'un vidéo. Ça a l'air banal. Quatrième cas, un jeune chrétien dont je tairai le nom. Mais les parents m'ont donné l'autorisation d'en parler. Ce jeune chrétien lisait des fictions magiques, genre chevalier, dragon, sorcière, épée, etc., enchanteur. Et je le voyais progressivement devenir résistant aux choses de Dieu. C'est un terme qu'on voit quand on rentre dans l'occultisme, on devient résistant à la Bible et aux choses de Dieu. J'ai averti son père à propos des lectures que ce garçon faisait. Sa réponse a été « faut pas exagérer ». Mais ça avait dégénéré en cauchemar, son affaire, à tous les soirs. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, avoir des cauchemars à tous les soirs pendant des années, ou c'est épuisant, puis c'est épeurant. Et c'était des cauchemars en relation avec ses lectures. Et ça l'amenait à se demander s'il était vraiment sauvé. Donc, après ça, c'est toute l'angoisse. Est-ce que je suis sauvé? Je vais aller en enfer, etc. Donc, il est venu me voir, parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu. Je lui ai montré que ses lectures, c'était une abomination aux yeux de l'Éternel. Il s'est repenti, simplement, sincèrement. Il a retrouvé la joie de son salut à l'instant même. Il n'avait pas perdu sa relation avec le Seigneur, mais sa communion. Hein? Puis quand on perd sa communion, on perd la joie de son salut. Et il a brûlé lui aussi, ou s'est débarrassé de ses fictions magiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les cauchemars ont disparu à partir de soi-même. Sans doute que de temps en temps, il fait encore un ou deux cauchemars, là, mais c'était le jour et la nuit. Donc, c'était vraiment ça, la source. Les cas que je viens de dire là, ça peut susciter des objections. J'aimerais en aborder quelques-unes pour pouvoir y répondre. Ce ne sont que des fictions. Et la liberté du croyant. Je suis assez mature pour discerner. Certaines fictions ont été écrites par de véritables chrétiens. Donc, on va regarder ces quatre cas-là. Ce ne sont que des fictions. La logique qu'il y a derrière cet argument-là, c'est un petit peu la suivante. Je vais faire une mise en situation. Mon enfant ne fait que lire un livre, ou écouter une vidéo, ou faire un jeu DVD. Ce n'est pas un vrai livre de magie. C'est une fiction. C'est pas vrai. Donc, mon enfant ne fait pas de magie. C'est logique, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vrai? Voici un contre-argument. Je vais faire une analogie. Je vais reprendre le même exemple, mais je vais remplacer magie par une autre œuvre de la chair qui est la débauche sexuelle. On va faire le même raisonnement, voir qu'est-ce que ça donne. Mon enfant ne fait que lire un livre de trois petits points. Ce n'est pas un vrai livre de trois petits points. C'est une fiction. Ce sont des mots et des dessins. Il ne le fait pas en réalité. Donc, mon enfant ne fait pas de trois petits points. Vous trouvez pas que ça sonne faux comme raisonnement? Moi, je trouve que oui. Pourquoi est-ce que ça sonne faux? Écoutons Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. L'acte. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est là que ça se passe, c'est là que ça commence. Le cœur. L'acte, c'est juste la conséquence. Vous connaissez ça? What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est un excellent exercice. Jésus, le Fils de Dieu, saint, sans péché, qui est comme son Père, qui a en horreur la magie, c'est une abomination pour lui, qui est mort à cause de tous ces péchés-là. Est-ce que Jésus lirait une fiction magique? Je vous laisse le soin d'y répondre. C'est la première objection, un peu logique. La deuxième, c'est et la liberté du croyant, qui sous-entend, faut pas être légaliste. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Frère et sœur, hein, on s'entend? Ça regroupe les deux. Vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Attention. Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, attention à soi-même, attention aux autres avec la liberté. Troisième objection à la question des fictions magiques. Je suis assez mature pour discerner. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça, c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Et ce qui est intéressant, c'est dans le contexte des viandes sacrifiées aux idoles, de communion avec les démons. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est cette personne-là, sa frère ou cette soeur-là, qui se croit debout, c'est lui ou elle qui est à risque. Parce qu'il ne veille pas sur sa conduite. Il ne fait pas attention. Et moi, je m'inclus là-dedans. Il y a quelques années, j'ai baissé la garde par rapport au domaine de la magie. Et je croyais que ça allait être sans conséquence. Mais je n'ai pas payé moi-même. Ça a été un membre de ma famille qui a payé. Et ça a été vraiment pénible. Je vous dis que j'ai pleuré. Et je me suis repenti devant le Seigneur, mais ça a pris quand même plusieurs mois avant que les conséquences de ça se règlent. Ça a pris en fait le jeûne puis la prière de plusieurs frères et sœurs. Dieu merci, grâce à Dieu, ça a été réglé. Mais je n'étais pas à l'abri. Je ne le suis pas encore. Quatrième argument, ces fictions ont été écrites par de véritables chrétiens. Ça sous-entend, donc ça doit être correct. On va regarder quelques auteurs. Ça va être petit un peu, là. C.S. Lewis. Bon, vous allez voir, ils ne sont pas tous chrétiens, là. Je vais essayer de mettre en correspondance. Au moins le premier et le dernier. OK. C.S. Lewis a écrit « Les tactiques du diable », où il dénonce vraiment les œuvres des ténèbres. Moi, je ne l'ai pas lu, mais selon notre frère Guy Boilly, c'est un très bon livre. C'est une fiction. Il a également écrit « Les chroniques de Narnia ». Je ne les ai pas lus, mais ce qu'on m'a dit, c'est que le héros, Aslan, lui, ne pratique pas la magie. Il y a de la magie dans les romans, mais apparemment, lui, il ne la pratique pas. Personnellement, j'ai quand même un malaise. J'ai l'impression que des fictions de ce type-là ont tendance à banaliser la magie, seulement avec la traduction française qui est l'armoire magique. C'est mon opinion. Tolkien, vous connaissez ses œuvres, était l'ami de C.S. Lewis. Est-ce que ça en fait un chrétien pour autant? Bon, j'ai parlé à un ami anthropologue, Paul Gosselin, je ne sais pas s'il est ici. Il connaît pas mal ces sujets-là et lui, pour lui, il n'y a aucune évidence que cet homme-là était chrétien. Et surtout quand on regarde dans ses œuvres, son héros, Gandalf, pratique la magie blanche. Et ça, c'est un des plus grands pièges de l'ennemi. C'est de faire croire que la magie peut être blanche, donc peut être bonne. Gros mensonge. Pour Dieu, là, il n'y a pas de magie blanche et de magie noire. Tout pouvoir qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, qui ne vient pas du Dieu Tout-Puissant révélé dans les Écritures, tout pouvoir découle de l'occultisme et de la magie. Il n'y a pas de magie blanche, magie noire. C'est tout en abomination à l'Éternel. Mais pour Tolkien, il y a de la bonne magie. Et ça a préparé le terrain à d'autres qui sont allés plus loin. Walt Disney, évidemment pas un chrétien. Essayez de trouver la mention de Jésus-Christ dans un de ses films. Moi, en tout cas, moi, je ne m'en rappelle pas. Par contre, vous allez trouver tous les noms des fées, des enchanteurs, des sorcières. Vous allez avoir leur nom, leur prénom, etc. La magie pour régler nos problèmes, pour fuir la réalité, etc. Ça aussi, ça prépare le terrain pour banaliser la magie. Ce n'est plus une abomination, c'est quelque chose de le fun. Rowling, c'est bien elle. Évidemment, pas une chrétienne. Son héros, Harry, recherche des pouvoirs, utilise des formules magiques. Et juste la fascination que ces romans-là ont exercé sur le monde entier est une indication de quelque chose. L'impact que ça a eu sur différentes choses. Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Et ça ne vient pas de Dieu. L'apôtre Jean, bon, un vrai chrétien. Il a écrit l'Apocalypse, certainement avec un caractère surnaturel, on pourrait dire fantastique. Il y a des dragons aussi là-dedans. Mais ce n'est pas une fiction. Pourtant, il y a des représentations symboliques, fictives, d'êtres spirituels réels. Le dragon, c'en est un. L'agneau, c'en est un autre. L'Apocalypse dénonce la magie, là. Ce n'est pas de la magie blanche, magie noire, ça dénonce la magie. Ça confesse Jésus-Christ. Les héros ne recherchent pas des pouvoirs, mais à faire la volonté de Dieu, quitte à mourir. C'est ça le plus important, la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et je pense que l'Apocalypse de Jean pourrait nous servir de barème sur qu'est-ce qui est bon pour un chrétien comme fiction de type fantastique. Mon opinion, c'est que les fictions magiques qui se déploient actuellement sont les précurseurs de l'avenue de l'Antichrist. Opinion personnelle. Paul va dire « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Ça va être des vrais prodiges, mais ils sont mensongers, ils vont induire en erreur. Quand la population, le gros de la population, va voir que la magie, c'est une bonne chose, va le réaliser, va le rechercher, bien, le terrain est prêt pour que le grand magicien arrive et séduise même les élus s'il était possible. J'en arrive à la jalousie de Dieu, un thème qu'on a malheureusement oublié, ou qu'on tente d'oublier. Je reviens au deuxième commandement. Tu ne te prosterneras point devant elles, les représentations idolâtriques, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu il est jaloux. Ce n'est pas comme un être humain qui est jaloux, qui a envie ce qui ne lui appartient pas. Dieu est jaloux de ce qui lui appartient. La gloire lui appartient. Il ne veut pas que sa gloire aille à quelqu'un d'autre. Il est jaloux. Donc ça, c'est jaloux. Quelqu'un de jaloux, là, attention, très, très dangereux. C'est une sainte jalousie. Et la conséquence de cette jalousie-là, qui peut arriver, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. En parenthèse, ceux qui sont dans l'idolâtrie. La magie et l'idolâtrie, c'est presque la même chose. Quand on parle de magie, on est dans le domaine du deuxième commandement. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on s'adresse directement ou indirectement à un autre Dieu, une puissance cosmique, angélique. On recherche des pouvoirs, ou on recherche à être protégé, et on va utiliser des objets, des représentations pour obtenir ces pouvoirs-là. Magie, idolâtrie, même chose, ça excite la jalousie de Dieu. Ça le met à l'envers. OK. Si on est tombé au piège, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Moi, j'ai tombé au piège, Jack aussi, d'autres personnes. Dieu merci, Dieu nous donne des remèdes. Jacques va dire, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Un chrétien a l'Esprit Saint en lui. Et Dieu est jaloux de l'Esprit Saint. Il ne veut pas qu'il y ait d'autres choses là, de sale à côté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si on veut que le diable fuit, il faut lui résister, mais on ne pourra pas lui résister tant qu'on n'est pas soumis à Dieu. Donc la clé, c'est soumettez-vous à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La repentance, c'est rien de nouveau. C'est comme ça qu'on a été sauvé. C'est comme ça qu'on est sanctifié. Des fois, on peut avoir besoin d'aide extérieure. C'est comme pour l'Évangile. On a besoin d'évangélistes. On a besoin de ceux qui nous disent la vérité pour pouvoir s'y conformer. Jacques va dire, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » On se rappelle au début les maladies mentales. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. » La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. L'apôtre ne nous parle pas de psychothérapie. Je ne dis pas que toute psychothérapie est mauvaise, mais c'est une thérapie spirituelle qu'on a besoin. L'idéal, c'est de ne pas tomber dans ces pièges-là. Prévention. C'est comme les maladies. Pierre va nous dire, « Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Compare pas le diable à un chaton. C'est un lion. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un lion ou un tigre dans les yeux, au zoo, là. Moi, juste à travers la grille, là, je suis terrorisé de regarder un tigre, là. C'est comme ça qu'il est. Il ne mordit pas, il dévore. Donc, veillez, comme une antilope. Elle va se tenir loin, elle va veiller. Si elle voit un lion, elle va s'enfuir. Paul va dire, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. » C'est parce que c'est dans les pensées que ça commence. David va dire, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » En remplaçant le mal par le bien, on est en sécurité. Et la grâce de Dieu. Évidemment, on ne pourrait rien faire sans sa grâce. Et là, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, toujours dans le contexte de l'idolâtrie. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, les pièges, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et la solution? C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez, courons, sauvons-nous, comme l'antilope qui sauve quand elle voit un lion. Elle commence pas à négocier, non, elle sauve. Les chrétiens, on est des fuyards. On fuit des choses. Mais c'est comme ça que Dieu se glorifie. Paul, il est sorti d'une muraille dans un panier pour se sauver, puis il a glorifié Dieu comme ça. En résumé, j'arrive à la fin. Un chrétien ne peut être possédé d'un démon. On s'entend? Possession de Dieu. Il peut toutefois être attaqué en raison de sa piété. Pensons à Job. Pensons même à Paul, qui avait une écharpe dans la chair. Il peut devenir démonisé suite à l'impiété. On a vu des situations, puis on a vu des cas chez nous, chez moi. Les symptômes de cette démonisation peuvent être confondus avec des troubles psychiatriques. Les médicaments ne peuvent guérir un problème spirituel. Ils peuvent même être un obstacle. Je ne dis pas que les médicaments n'ont pas leur place. Mais si c'est juste ça, puis rien de spirituel, il y a bien des cas qu'on passe complètement à côté, puis il y a des vies qui vont être gâchées. Ces démonisations sont souvent une conséquence du péché de magie. Ce péché commence dans le cœur et les pensées. C'est là que le piège commence. Souvent pernicieusement avec des jeux ou des fictions, livres, vidéos, jeux d'ordinateur. Un chrétien ou un non-chrétien peut alors exciter la jalousie de Dieu. Ça, en abomination. Donner accès au diable. Devenir résistant à la parole de Dieu. Il va s'éloigner de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il s'éloigne de Dieu? Pourquoi? Il y a toujours une raison. Développer le goût de l'occultisme, de la mort, du lait, du mal. Entre vous et moi, là, j'ai déjà entendu parler de musique chrétienne gothique. Je ne suis pas capable de me rentrer ça dans la tête. Peut même être dévoré. Donc, une ruine. Faire naufrage en ce qui concerne la foi. C'est pas drôle. L'esprit va être sauvé, mais pas drôle. Danger de la naïveté, de l'ignorance et du manque de vigilance. On est averti, la parole de Dieu nous avertit d'être vigilants. Danger pour les parents face aux enfants. On va avoir des comptes à rendre auprès de Dieu. Tout comme les anciens vont avoir des comptes à rendre pour leur congrégation. Prévention, veiller, fuir. Soyons des fuyards. Les petites antilopes. Si on est tombé dans un piège, Dieu merci, le remède existe. C'est la repentance. On a entendu un frère ce matin qui a parlé de sa repentance. C'est beau à voir. C'est les fruits de l'esprit. Mais des fois, on a besoin d'aide extérieure, comme dans le cas de Jack. Il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il n'y avait pas la connaissance. Il n'y avait pas ce qu'il fallait. On est un corps, l'Église. On a besoin les uns des autres. Je voudrais terminer sur la bonté de Dieu. J'ai parlé de cas dans l'Assemblée, du mien, où on a vu des délivrances, et puis Dieu va le faire, dans tous les cas où on se soumet à lui. Il veut le faire. Parce qu'il est bon, mais pas comme l'autre. L'autre ne pense qu'à détruire. Mais Dieu est bon, mais il est saint. N'oublions pas la sécurité éternelle du chrétien. Si vous avez des oppressions, comme il m'en arrive d'en avoir, j'ai été scellé du Saint-Esprit. Aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et finalement, la souveraineté de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, on a terminé l'étude.